Marbella Radio 107.6 FM. El protagonista eres tú.
Si tienes internet,
tienes Radio Televisión Marbella.
Visita nuestra nueva página web y descubre todo lo que podemos darte.
Ahora, en www.rtvmarbella.tv,
más información sobre nuestros programas y nuestra programación de radio y televisión.
Sigue en directo tus programas favoritos y, si lo prefieres,
tienes todos nuestros contenidos donde quieras y cuando quieras,
tanto de televisión como de radio, listos para reproducir y también para descargar en tu dispositivo.
Además, abrimos un canal de participación para que puedas hacernos llegar tus propuestas.
Esto es Radio Televisión Marbella,
donde tú eres el protagonista.
Marbella Radio 107.6 FM. El protagonista eres tú.
Alors, bonjour à tous. J'espère qu'on est bien connecté avec Stéphane Théry. Allô, allô. Est-ce que tu nous entends? Oui, bonjour Stéphane. Alors, je vais d'abord te présenter puisque nous sommes finalement à l'antenne en direct. Et voilà, on voulait s'assurer que tu étais bien avec nous. Alors, nous avons pour inviter aujourd'hui un invité très spécial. En fait, c'est un homme avec beaucoup de facettes, si je puis dire. C'est un artisan des mots, c'est un écrivain, c'est un auteur, un dialoguiste, un scénariste, un passionné d'écriture, vous l'aurez compris, mais aussi de cinéma, et aussi le directeur du magazine culturel Terroma. Voilà Stéphane, que je t'ai présenté avec mes mots. J'aimerais justement que tu le fasses avec tes propres mots. Voilà, qui est Stéphane Théry en fait ?
Eh bien, Stéphane Théry est avant tout un passionné, comme tu l'as dit, un passionné par les mots et par l'image. Et j'ai commencé à écrire, j'avais 14 ans, avec un titre évocateur qui commençait par 14 ans seulement. Donc ça dit bien ce que ça veut dire. Et puis, c'était couler la vie avec le travail, un gros travail de marketing, de communication. J'ai monté une agence à Paris. Oui. Et puis, l'écriture venait tout le temps en pointillé, se positionner comme ça sur des pauses de carrière. Et l'envie d'écrire, de jouer la comédie, de jouer au théâtre, etc., prenait toujours le pas sur la carrière commerciale et marketing. Voilà. Donc finalement, j'ai jeté l'éponge après avoir travaillé pour un groupe comme Benetton.
Oui.
Et je suis retourné au théâtre et là, j'ai recommencé mon travail d'écriture.
Donc, tu es un artiste en fait. Tu es un artiste quelque part, non ?
Oui, avec toujours cette volonté de rester libre et de répondre aussi à un besoin que j'ai rencontré à travers les ateliers d'écriture que j'ai animés pendant des années. Le besoin de visibilité pour des talents. Beaucoup de gens meurent dans un anonymat qui, pour moi, des fois, est insupportable par rapport à la qualité et l'énormité de leur talent. Et parce qu'ils n'ont pas les connexions, parce qu'ils manquent justement de connexions dans la presse, dans les médias, etc., eh bien, on passe à côté de tous ces talents. C'est pour ça que j'avais créé d'abord le magazine Pas vu, pas lu, avec l'association Terroma, qui a dû fermer à cause du Covid.
Oui.
Un épisode assez désastreux pour beaucoup d'entreprises. Et puis, on est revenu avec Pouvoir Magazine. Et puis, le nom collait trop à un autre magazine qui, lui, est plus politique. Et on a décidé de revenir à nos premières amours et de renommer le magazine Pouvoir, qui circule depuis maintenant un an, à Terroma.
Donc Terroma, justement, qui est en fait un magazine dédié un petit peu à l'émergence des nouveaux auteurs, des nouveaux talents, c'est ça en fait un petit peu l'idée.
Oui, alors on a essayé des rubriques différentes, et puis avec le temps, et puis bien sûr les visites de tous les internautes, on s'est aperçu que certaines rubriques marchaient mieux que d'autres, et puis on a voulu en ajouter d'autres, et notamment celles sur l'artisanat, les paroles et la musique, et bien évidemment, le spectacle vivant et tout ce qui peut tourner en fait autour des mots.
Très très bien, parce qu'en fait tu as un sacré coup de plume du reste, hein, parce que tu as écrit donc des romans, tu as aussi écrit des scénarios, des courts-métrages, sauf erreur, non ? Donc tu es quand même assez lié avec le cinéma finalement.
Oui, toujours, ça a été une passion, d'abord en tant que comédien, mais j'arrivais pas à trouver ce que je voulais, alors j'ai arrêté le travail de comédien. Et puis, je suis passé à l'écriture. J'ai voulu absolument amorcer l'écriture filmique avec les États-Unis. Et je me suis un peu cassé les dents, là, parce que les Américains travaillent avec des agents américains. Je n'avais pas d'agent américain. Et tout le matériel que j'ai pu déposer au WGA à New York ou à Los Angeles n'a jamais trouvé preneur parce que je n'avais pas d'agent.
Mais ça, ce n'est que partie remise, j'ai envie de dire, parce que le talent, oui, finalement, il éclate toujours au grand jour. Et je pense que, justement, comme nous, tu es à l'antenne avec nous, et je rappelle justement qu'on nous écoute, en fait, aux États-Unis, au Canada, en France, en Espagne, en Belgique, Luxembourg, et puis la Suisse, bien évidemment. Donc voilà, c'est une fenêtre ouverte et on propose justement tes scénarios à des producteurs américains, peut-être, non ?
Oui. Alors là, le projet actuel, c'est bien évidemment d'adapter l'Isaac Serkus au cinéma et de trouver une société de production qui va me permettre de présenter quelque chose qui tient vraiment la route. Pas un film à l'économie, mais un film qui vraiment trace le portrait de ce petit garçon qui vit dans une banlieue défavorisée et qui, par son talent, va changer les choses.
Voilà, qui va changer le monde en quelque sorte, non ?
Oui, c'est d'abord ça, son quartier, sa ville, les mentalités. Et puis la chose qu'il réussit à faire par-dessus tout, c'est à changer son regard sur son environnement, qu'il rejetait au départ et qu'il va accepter et avec lequel il va modeler une autre façon de vivre.
Oui. Mais en fait, quelles sont finalement tes sources d'inspiration ? Parce que je vois que tu en as de nombreuses, le cinéma, la littérature, de grands noms. Mais toi, est-ce qu'il y a une part de biographie ? Il y a ton vécu, en fait. Qu'est-ce que tu nous livres à travers Isaac Serkus, en fait ? De l'imaginaire ou aussi de l'autobiographie ?
Je dirais que je suis plus proche d'auteurs comme John Fante ou John Steinbeck, qui parle des vrais gens, de la vraie vie, oui, des gens qu'on croise tous les jours. Moi, j'ai évolué dans un milieu très défavorisé. On était 8 à la maison, il n'y avait pas de papa. Et ce sont les mots qui m'ont sauvé, en fait. La première lecture qui m'a vraiment ouvert sur l'écriture, c'est L'appel de la forêt de Jack London.
Ah, oui.
Parce que c'est vraiment ce livre qui m'a fait quitter la banlieue, qui m'a fait comprendre qu'il y avait un monde ailleurs.
Oui.
Et avant ça, avant cette lecture-là, je ne le voyais pas. J'étais enfermé dans cette banlieue et je me disais que j'en étais prisonnier pour longtemps. Et après la lecture de L'appel de la forêt, j'ai commencé à dévorer les livres. Et à chaque livre lu, c'était une évasion supplémentaire. Et j'ai vu là toutes les possibilités qui pouvaient s'offrir à moi, juste avec les mots. Et ça m'a jamais quitté.
Donc ça, finalement, c'est un appel, hein, qu'on lance aussi à la jeune génération qui peut-être se désintéresse un petit peu de la lecture et des livres, qu'ils retournent un petit peu finalement lire des livres où ils peuvent s'échapper, avoir des évasions et construire peut-être le monde de demain, non ?
Oui, je dis souvent, j'ai une citation qui dit « l'art livre et délivre des émotions ». Et c'est bien ce que j'ai constaté à travers tous les ateliers d'écriture que j'ai animés, des gens qui viennent raconter leurs histoires, qui viennent raconter leurs malheurs, et qui, grâce à l'écriture, le partagent et arrivent à vivre avec mieux, en fait, en se débarrassant de la part d'ombre qui les a empêchés, je dirais, de respirer normalement pendant des années.
Mmh.
Et moi, je le vois avec ma fille qui écrit beaucoup à 11 ans, et je trouve que c'est fantastique ce qu'elle arrive à exprimer à 11 ans à travers ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent, les émotions négatives ou positives qu'elle rencontre au quotidien, qu'elle vit et qu'elle a envie de partager. Et je trouve dommage que les gens... J'adore le cinéma, mais je trouve dommage que les gens se jettent sur les vidéos, presque exclusivement sur les vidéos, sur les images, alors qu'un livre donne une part d'imaginaire qu'on ne trouve pas au cinéma.
Absolument.
Et c'est un passionné de cinéma qui dit ça.
C'est fantastique, de toute façon, l'écriture. Comme tu dis très justement, le livre te permet en fait de créer en fait ton propre univers à travers les mots que tu lis, mais à travers ton interprétation, ta propre vision du monde. Donc c'est vrai que chaque livre est perçu différemment d'une personne à une autre. Et c'est ça justement, ce monde imaginaire. Et dis-moi justement, ta passion pour l'écriture qui est apparue donc très tôt, donc ton enfance, ton adolescence. Donc que dirais-tu, que l'écriture t'a choisi ou c'est toi qui as choisi l'écriture ?
Je crois que l'écriture m'a choisi. J'ai essayé des tas de choses et ça ne fonctionnait pas. À partir du moment où je me suis intéressé aux mots, aux textes, et à travers mon agence de communication, j'ai vu à quel point ça fonctionnait, parce que j'ai lancé des tas de journaux d'entreprise, j'ai écrit pour des tas de gens, j'ai écrit aussi sur des œuvres d'art. Et là, j'ai vu que je touchais les gens. Et j'ai vu aussi que c'était facile pour moi. C'était beaucoup plus facile que le travail d'acteur ou de comédien que j'avais du mal à livrer réellement à cause peut-être d'une certaine timidité ou j'ai une réserve que je n'ai pas dans l'écriture.
Et du reste,
en fait, quand j'écris, je me sens totalement libre.
Tu te sens libre. Et j'ai retenu en fait une phrase que, enfin, t'en as tellement, mais je dirais une qui m'a interpellée, que je trouve très belle, justement, qui rejoint peut-être ta réflexion, qui dit « Un bon coup de plume va bien plus loin qu'une page bien écrite. Il offre aux mots un monde sans frontières. »
Oui, c'est bien l'impression que j'ai eue durant toute ma vie, en fait. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai connu énormément d'échecs, mais j'ai eu aussi tellement de succès que tous ces succès ont effacé les échecs. Et je trouve que les gens n'essayent pas assez, en fait.
Absolument.
L'échec, c'est une balise vers un succès. Et après peut-être 2, 3, 10 échecs, quand on est vraiment passionné, on arrive à la réussite.
Absolument.
On arrive au succès. Je le sais parce que j'ai travaillé aussi dans le sport. Et oui, dans le sport, un sportif de haut niveau qui devient champion du monde parce qu'il a travaillé pendant 2, 3 ans, il n'a plus du tout envie de perdre son titre. Alors que celui qui l'a eu comme ça, sans trop d'efforts, juste par un don, le perd souvent très vite.
C'est
eh bien,
juste.
Dans l'écriture, c'est pareil. Il y a un moment où l'auteur a une plume beaucoup plus forte, qui se promène des fois malgré lui, hein, mais je dirais que c'est pour le meilleur.
C'est un
parce que la plume est là, elle vous guide un peu, en fait. Vous êtes un peu dépassé des fois par les livres. Moi, j'ai des livres qui, en fait, m'emmènent. C'est plus moi qui...
Te transporte, en fait. Te transporte
ouais,
d'une
ça.
Certaine façon, donc te font voyager et en même temps tu fais voyager ton lecteur. Et dis-moi, comment se déroule finalement, parce que tu fais tellement de choses, comment se déroule la journée type de Stéphane et comment arrives-tu à concilier ta vie professionnelle de ta vie personnelle, qui est bien entendu importante aussi, hein, qui est au centre aussi de ta vie?
Oui, ces derniers temps, c'est un peu compliqué parce qu'on a eu des soucis de santé au niveau de la famille. Ma fille
avoué,
a eu
oui.
des... Voilà, c'est ça. Mais en global, je m'occupe beaucoup de ma fille, c'est-à-dire que c'est moi qui l'emmène à l'école, je déjeune avec elle et je vais la rechercher bien évidemment à la sortie à 4h30. Mais le reste du temps, ça commence toujours par de la lecture.
Oui.
Donc c'est souvent de la presse. C'est aussi beaucoup de livres ou d'articles qu'on me propose, parce que le magazine est très sollicité. Et je commence toujours mes journées par ça, par de la lecture en fait.
Et c'est finalement un
Ensuite,
conseil que tu donnes,
comme
non? La lecture, de commencer un petit peu la journée par la lecture, c'est ce que tu recommanderais aux jeunes gens, finalement, qui sont...
Oui, parce que ça ouvre l'esprit,
voilà.
En fait. Ça ouvre énormément l'esprit. Vous lisez quelqu'un d'autre, ça vous donne déjà des idées différentes des vôtres, ça vous donne une humeur, ça vous donne plein d'autres choses auxquelles vous n'auriez pas pensé avant de commencer à lire, en fait.
Mm-hmm. Ça te donne, en fait, une vision du monde, finalement.
Voilà. C'est ça. Ensuite vient le temps de l'écriture et c'est 2-3 heures par jour, souvent l'après-midi et après le soir.
D'accord, d'accord. Et justement, j'en ai parlé avec mon invité précédent et j'aime bien reposer la question parce que c'est d'actualité. Finalement, les réseaux sociaux, quelle est l'importance que tu leur donnes et notamment quel est le lien que tu peux faire avec ton propre magazine?
Les réseaux sociaux, pour moi, c'est uniquement une source de connexion pour rencontrer des gens comme toi, des artistes, des peintres, des auteurs, les interroger sur leur travail et
oui,
leur proposer soit une collaboration dans le magazine,
mm-hmm,
soit tout simplement une lecture de leur ouvrage ou pour un peintre, une adaptation libre de texte de l'œuvre que j'ai choisie. Après, pour le magazine, en ce qui concerne le lectorat,
oui,
pour être tout à fait honnête, les réseaux sociaux tous regroupés les plus gros, là, Facebook, LinkedIn,
Instagram, ouais,
ça représente à peine 2% de mon lectorat.
C'est fantastique.
Que les gens likent ouais, beaucoup de choses sans réellement les lire. Donc, je ne m'attarde pas trop là-dessus. On a acheté des fichiers de gens passionnés par l'architecture, par la littérature, etc. Et c'est surtout là-dessus que je communique, qu'on fait de la communication autour du magazine.
C'est justement pour ça que je voulais que tu en parles, pour mettre en perspective, les réseaux sociaux n'ont pas tellement d'importance finalement que celle qu'on veut bien leur donner. Et justement, là, tu en es une preuve vivante en nous parlant de ton lectorat et comment tu captes. Justement, il y a tous 80% qui se baladent. Donc, c'est vrai que les réseaux sociaux sont à utiliser, on va dire, ils ont leur utilité, mais ce n'est pas une finalité en soi. Et justement, cela m'amène aussi à te poser une question, parce que l'intelligence artificielle est à la mode, mais en même temps aussi, on s'en méfie. Est-ce que toi, tu l'utilises, ou est-ce que tu as des conseils, ou est-ce que tu as... Quel est ton ressenti par rapport à ça?
Je ne vais pas donner de conseils à tous les auteurs qui se posent cette question. À titre personnel, je ne veux pas que mes livres soient vendus en format numérique, et je suis contre l'utilisation de l'intelligence artificielle, parce que c'est la fin de la singularité. Et j'ai eu une discussion ce matin avec ma compagne au sujet de l'intelligence artificielle, et elle me posait la même question que toi, et je lui ai répondu. La singularité, elle est liée à un auteur, elle est liée à une vie, elle est liée à un accident de vie, et ça, l'intelligence artificielle ne l'aura jamais. Donc c'est forcément une espèce de salade qui est faite avec les écrits des uns et des autres, mais si on veut une histoire originale, une histoire unique, quelque chose qui vous fait voyager, ça passera toujours par l'unicité, la singularité d'une vie, d'un moment de vie qu'un auteur aura envie de partager.
C'est très beau ce que tu dis, et je rejoins tout à fait ton approche et puis ta réflexion, puisqu'en tant que compositeur, justement, on dit que la singularité, c'est finalement ce qui va toucher les gens. Et justement, on parlait de singularité, on parlait du côté humain, et j'ai envie de m'attarder justement sur Teroma et en fait tous les projets qu'il y a autour de cela. Je crois avoir compris que tu avais un projet de village Teroma. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu?
Oui, on va essayer de faire voyager les gens différemment. C'est un projet qu'on avait commencé à mettre en place avant le Covid, qu'on était obligé d'arrêter parce qu'on voulait commencer avec l'Indonésie. Et ça s'est arrêté brutalement pour des raisons financières, en fait. Ouais. Et l'idée, c'est de faire venir une région du globe vers des spectateurs, et pas l'inverse. C'est-à-dire leur proposer l'espace d'une journée de découvrir une région du globe rattachée à une terre, des croyances, une culture, de l'industrie, de l'artisanat, quelque chose en fait qui rapproche les gens de leur histoire, parce que j'ai l'impression que les gens perdent leurs racines de plus en plus, et qu'on est toujours sur l'instant présent, où on est déjà sur demain ou après-demain, et hier est de plus en plus mis au placard, alors que c'est hier qui fait la force d'une culture. Et donc le village Teroma, ça va être l'occasion de découvrir des auteurs, mais en même temps des comédiens, en même temps des peintres, en même temps des sculpteurs, enfin, tous les gens qui forment une base de culture qui est liée forcément à un morceau de terre et qui distingue ce morceau de terre de tous les autres.
C'est très beau, et j'ai envie de te poser la question, parce que Teroma, je crois que ce n'est pas par hasard que tu as choisi ce mot. Est-ce que tu veux nous l'expliquer?
Teroma, c'est tout simplement la contraction de terre, homme et main. Et donc, c'est vraiment ramené à l'essentiel. Et que ce soit l'image, la littérature, la sculpture, tout est ramené au travail de la terre et à l'endroit où vous vivez. Je ne sais pas si, en ce qui te concerne, tu as un point de terre, un point d'attache dans lequel tu souhaites te rendre quand ça ne va pas, quand tu n'as pas le moral, etc. On a tous un petit morceau de terre comme ça, qui finalement détient les racines que nous avons tous. Et non, elle est différente, c'est très juste, pour chaque individu.
C'est très juste, et je trouve que c'est très beau, et j'ai envie de dire que ça rejoint, moi qui ai commencé un petit peu en tant que privilégié, j'ai envie de dire, le roman Isaac Circus, et j'ai envie de dire que tu à travers ce projet, on en pense finalement que tu rejoins l'idée d'Isaac Circus, finalement, d'offrir quelque chose de meilleur, non? Je ne sais pas comment tu pourrais le traduire,
oui,
avec tes mots.
Et je crois, le souci de ce monde aujourd'hui, c'est que les gens courent toujours après ce qu'ils n'ont pas, au lieu de faire avec ce qu'ils ont. Et je dis ça et je me mets dans le pot, en fait. Je fais partie de ces gens qui, pendant des années, ont regardé s'il y avait mieux ailleurs, si c'était mieux chez le voisin, alors qu'en s'arrêtant un peu, en s'attardant sur ce qu'on a et en essayant d'en tirer le meilleur, eh bien, il y a beaucoup de problèmes qui disparaissent, en fait.
Bien sûr, bien sûr. De toute façon, le Dalai Lama disait qu'à chaque problème, il y a une solution. Et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème, non? C'est ça.
C'est ça, mais on dirait que certaines personnes ont perdu leur volonté. Souvent, les jeunes des banlieues perdent leur volonté parce que ils imaginent qu'ils ne passeront jamais la frontière, en fait. Mais la frontière, vous la passez dans votre tête.
C'est juste avant.
Et je crois que c'est Kafka qui a dit ça. Chaque mot est un, ou chaque livre est un, est un, est un, je crois, une attaque contre la frontière, quelque chose comme ça, qui permet de dire je vais dépasser tout ce que j'imaginais, en fait. Mais pour ça, ben, il faut avoir un regard assez, assez général sur votre environnement et regarder ce que vous, vous rejetez trop facilement et peut-être essayer par, des, par le jeu des différences, le jeu de la découverte, de, ben, d'aller vers des choses qui vous faisaient peur au départ.
C'est tout
et
à fait
Isaac
juste,
Sirkus, ouais. C'est ça, le gamin refuse son environnement. Et du jour où il va l'accepter, tout devient possible pour lui. Alors qu'avant, il était dans le rejet, il ne pensait qu'à une chose, c'est quitter son quartier, et il n'en faisait rien que voyager avec cette souffrance, cette espèce de fardeau qu'il avait sur les épaules, et dont il se débarrasse le jour où il accepte de faire avec ce qu'il a.
C'est comme un fardeau finalement qu'il libère. Et justement, tu as une phrase aussi très belle que je reprends, puisqu'on parle aussi de cinéma, qui est une frontière très, très fine entre l'écriture et le cinéma. Et tu dis que le cinéma est une parenthèse enchantée qui donne le clap de vie sur les mots d'un livre. Je trouve ça très beau. Et j'aimerais que tu approfondisses un petit peu cette phrase. Qu'est-ce que tu as voulu vraiment dire?
Je vais abonder dans une de tes passions, c'est la musique de film.
Oui.
Moi, je suis sidéré des émotions que j'ai pu avoir à travers un morceau de musique qui me rappelle un film, une seconde d'un film, une minute d'un film, mais qui me transporte à chaque fois. Et c'est ça la magie du cinéma. C'est le son, les mots et la musique.
Oui, ça c'est vrai que la musique est intimement liée, que ce soit avec le monde du cinéma, comme tu t'es dit très justement, mais aussi avec les mots, puisque voilà, tu t'inspires aussi de musique, c'est vrai, des fois de mes compositions, et j'en suis touchée. Et je pense, comme tu dis très justement, on est là pour apporter quelque chose, toi, à travers l'écriture, à travers tout ce que tu peux apporter, donc c'est vraiment une fenêtre ouverte importante. Et dis-moi par rapport au village donc, de tes romans, donc de tes intentions, est-ce que tu as déjà initié des démarches? Est-ce qu'on peut t'aider d'une certaine façon? Quel est l'appel que tu pourrais lancer puisque tu es à l'antenne?
L'idée pour moi, c'est trouver un lieu. L'habillage du lieu, on l'a parce qu'on avait déjà tout préparé il y a 4-5 ans.
Oui.
Et on sait exactement ce qu'on veut faire. J'ai toutes les connaissances. Moi, j'ai des tas de comédiens qui veulent mettre leur travail de comédien en avant. J'ai des gens comme toi qui peuvent créer une ambiance musicale dans l'événement. Il y a des tas de troupes artistiques qui peuvent venir présenter quelque chose et sur des thèmes qu'on aura choisis pour permettre aux gens de vivre un spectacle vivant et en même temps découvrir des livres, des régions, des gens qui viennent de l'autre bout du monde,
oui,
mais dans une ambiance vraiment particulière. Je sais pas, mais par exemple, dans les magasins qu'on peut visiter pour aller faire ses courses, quand on rentre chez Nature et Découverte, si on rentre les yeux bandés, on sait qu'on est chez Nature et Découverte avec la musique et l'ambiance olfactive que Nature et Découverte. Ben là, ça serait pareil. En fait, c'est de dire, quand je vais passer la porte du village Teroma, j'aurai l'impression en fait, d'avoir quitté l'avion, de rentrer quelque part, découvrir un pays. Et dans toutes ses facettes, en fait.
Donc de créer une identité, en fait.
Oui, et on a vu ça on a fait beaucoup de salons du livre et on a toujours été étonné de ce côté statique, des rampes à n'en plus finir de tables avec des auteurs cachés derrière une pile de livres. Il y a tellement d'autres choses à faire pour parler de la culture, pour échanger avec les gens, pour faire en sorte que le cinéma rencontre le livre, que le livre rencontre la musique, que la musique rencontre le théâtre. C'est ça l'idée de Teroma. C'est de tout regrouper.
C'est magnifique et on va essayer de t'aider justement. On rappelle peut-être aux auditeurs que tu es en région parisienne. Donc, en fait, oui, J'imagine que le but, c'est de trouver en fait un espace, comme tu le dis très justement, cet espace artistique, mais aussi qui rejoint justement cette solidarité humaine, enfin, qui est plusieurs compétences qui soient représentées, plusieurs aspects artistiques. Donc ça, on va retenir et on va le proposer. Revenons en fait à Teroma, qui en fait est ton magazine qui vient de sortir. Et explique-nous peut-être en quelques mots, si tu peux, quelle est en fait la particularité, pourquoi en fait il est tellement novateur dans sa version digitale, sa nouvelle version digitale, non, je crois.
En fait, Teroma va avoir deux versions. On a une version HTML classique, hein, on va sur le site Teroma, on découvre les articles, il y en aura à peu près tous les jours, d'accord, dans différentes rubriques, et on a décidé de le doubler avec une version Flipbook, qui reprendra les meilleurs articles du mois, par exemple, de janvier, février. Fin février sortira la version Flipbook en français et en anglais. On aura repris une sélection des articles qui sont passés depuis le début de l'année.
D'accord. Donc finalement.
Voilà. Après, le reste, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les deux supports différents, on peut mettre de la musique, oui, on peut mettre des vidéos, bien sûr des mots, des écrits, etc. Mais on s'est aperçu, en fait, avec les premiers mois sous l'étiquette Pouvoir, oui, que les gens lisaient beaucoup plus facilement les mots quand il y avait des animations et des vidéos.
Et oui, c'est plus attrayant finalement, donc il faut stimuler.
Oui, et on est plus dans l'air du temps, les gens aiment bien le tout de suite et oui, manger en quelques minutes, parce que tout le monde court après son temps, quelque chose, le digérer très vite. Et bien là, l'idée, c'est d'avoir les deux. Et c'est d'essayer toujours de ramener un peu les gens vers les mots, parce que je trouve que le temps de lire quelque chose, ça vous permet davantage de comprendre ce que la personne a voulu dire. Une vidéo, certes, ça peut choquer, ça peut être très vivant et prenant, captivant. Mais quand vous lisez un texte, vraiment un texte qui vous accroche, il se passe autre chose, indéniablement. Et moi, j'ai besoin des deux. J'ai besoin que le magazine soit en version HTML, qu'il ait cette version Flipbook qui permettra ensuite d'imprimer cette version Flipbook papier à la demande, donc les gens qui voudront s'abonner pourront commander leur version papier du magazine. Avant ça, il fallait faire des thèses, voir quelles étaient les rubriques qui fonctionnaient le mieux, quelles étaient les rubriques sur lesquelles on avait plus d'interactivité avec les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écrivent quand même, beaucoup de gens qui veulent passer dans le magazine, oui, et ça c'est aussi un gros travail de fourmi que de regarder, de prendre le temps de regarder réellement ce que les gens proposent, et puis voir à quel moment on peut l'éditer dans le magazine. Donc ça fait beaucoup de travail, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir, à terme, avant la fin de l'année, trois supports différents, support HTML, support Flipbook, oui, et le support papier.
Donc finalement, tu es assez révolutionnaire, hein, parce que tu aimes justement être toujours à la pointe non seulement de l'actualité, mais à la pointe de la technologie pour justement faire mieux passer tes messages et finalement transmettre toute ta passion, qu'elle soit au niveau de l'écriture, de la musique, de la culture en général. C'est un support culturel finalement que tu nous offres.
Oui, mais j'aime bien en fait rattacher les deux. C'est-à-dire que je trouve que c'est fantastique, les outils Internet, c'est extraordinaire. La preuve, on est en train de discuter, on est à des kilomètres l'un de l'autre.
Exactement.
Je peux échanger avec un auteur aux États-Unis, avec un acteur ou une actrice, avec un producteur ou n'importe qui. Ça, c'est Internet, c'est ça, c'est fantastique. Mais le fait d'avoir un livre dans la main, le poids du livre, d'avoir le temps de feuilleter, de revenir sur une page qui a marqué l'esprit, ça, pour moi, c'est irremplaçable. Et je suis toujours heureux de voir ma fille avec un livre dans la main et venir me voir et me dire « T'as vu, papa, là, regarde, j'ai lu ça. » Et elle me montre la page qu'elle a lue et qui a marqué son attention. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Donc, pour moi, Teroma, ça restera toujours attaché au papier, quelque part. Et la finalité, c'est vraiment que les gens adhèrent aux trois formats. En faisant l'effort pour ceux qui n'arrivent plus à aller vers le livre, parce qu'il y en a, hélas, de plus en plus, faire l'effort d'aller jusqu'à la lecture, d'acheter le support papier et puis de l'avoir à côté de soi.
Ben c'est sûr, le plaisir de faire tourner les pages, du reste, je te rejoins complètement. Et souvent, s'il peut y avoir même des bugs informatiques, rien ne remplace un bon bouquin. Et je trouve qu'une bibliothèque est quand même, a beaucoup, beaucoup plus d'attrait, finalement, si elle est remplie de beaux bouquins, d'anciens bouquins, même qu'on transmet de génération en génération. Parce que finalement, c'est ça la beauté. On peut y écrire aussi un passage, une dédicace. On peut raturer, on peut vraiment l'utiliser aussi pour s'instruire, j'entends, quand on est à l'école aussi. Donc, c'est vraiment, le livre a vraiment en fait une âme quelque part, non? Parce qu'il a une odeur aussi, non? En fait, c'est tout
ça. Oui, et un livre ne meurt pas, en fait. Il revit à chaque fois qu'un lecteur l'ouvre.
Exactement, exactement.
Et moi, ça, j'adore ça. J'adore l'idée qu'un livre est immortel. Et c'est chaque regard nouveau posé par un lecteur ou par une lectrice sur un livre qui lui donne cette éternelle jeunesse. Et moi, j'adore ça. J'adore avoir mes bouquins à côté de moi. Il y a des bouquins que je feuillette, des fois que je relis intégralement pour la énième fois, parce que ce sont, pour moi, comme des lieux ressources, en fait.
Oui, puisque j'ai lu que tu as finalement un goût très, très prononcé pour la littérature, on le disait en début d'émission. Il y a eu Victor Hugo, Tennessee Williams, Émile Zola, Ernest Hemingway. Il y en a beaucoup. Oui. Hein. Donc, tu es bercé finalement dans tout cet univers. Et côté cinéma, puisque je vois que le temps passe très vite, je voulais quand même faire aussi te poser une question d'actualité, puisque David Lynch nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Est-ce que tu te retrouves aussi dans ce monde un peu fantastique, puisqu'on parlait justement de, comment dirais-je, d'imaginaire, etc. Lui avait un monde un petit peu particulier. Est-ce que tu le rejoins aussi ?
En fait, ce qui est fantastique chez David Lynch, on le retrouve aussi chez Tim Burton ou chez c'est cette signature. Dès la première image, on sait que c'est lui.
On sait que c'est lui.
J'aimais bien aussi Tony Scott qui faisait des films assez hallucinants avec sa signature à lui, un rythme d'image incroyable qui a été copié par d'autres, mais c'est un film de Tony Scott, on le reconnaît dès les premières minutes de projection.
C'est ça. En fait, ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est un petit peu peut-être le mot de la fin, qui est la singularité. J'ai envie de mettre le poids sur ce mot, puisque finalement, tu es quelqu'un de singulier. Tu fais la promotion justement d'artistes singuliers, dont tu fais partie comme auteur. Et j'ai envie de te dire, si tu devais te résumer, quel serait le mot que tu te donnerais ? Tu es plutôt un romancier, un scénariste. Quel est le mot qui te colle à la peau, pour le dire comme ça ?
Je ne sais pas.
Alors artisan, là, artisan.
Je dirais un artisan. Oui, j'aime bien l'artisan des mots.
C'est
parce
ça.
Que ça me permet de toucher à tous les secteurs des mots, en fait. J'ai fait beaucoup d'articles de presse, mais romans ou scénarios, pour moi, c'est le même plaisir, en fait.
Oui, c'est jouer avec les mots. Mais écoutez, pour tous les auditeurs qui nous écoutent de la Costa del Sol, comme je le répétais ici et ailleurs, donc on retient de toute façon, toute cette interview est enregistrée. Nous retenons que nous sommes en compagnie de Stéphane Théry, donc directeur de Terroma.fr, sauf erreur, et que nous mettrons bien sûr dans le podcast en fait beaucoup d'informations. Et nous aurons le plaisir de te retrouver en ligne dans ton magazine, parce que tu écris finalement tous les jours, tu remplis les pages de ce magazine digital que j'invite les lecteurs à consulter sans tarder.
Eh ben, je te remercie beaucoup et puis c'était un grand plaisir de pouvoir échanger.
Merci.
Sur, je pense, des passions communes.
Oui, absolument. Voilà, je voulais te laisser avant tout le protagonisme, bien que nous collaborons ensemble. Mais voilà, j'aimerais rappeler à tous les auditeurs qu'il est très important de lire, de s'évader. N'oubliez pas qu'un bon livre remplace finalement beaucoup de jeux vidéo et surtout, ça vous permet de créer un monde meilleur. Et lisons peut-être Isaac Sirkus. Je crois qu'il est en vente. Hein. On peut l'obtenir de toute manière. Donc, on mettra toutes ces informations. Oui.
Voilà. Et je dis souvent que lire, c'est tuer le temps en le gardant vivant.
Très bien dit. On rejoint une page de publicité et puis nous remercions Stéphane Théry qui a eu la gentillesse de nous accompagner pendant cette petite demi-heure depuis Paris. Et nous le saluons, nous lui souhaitons bon vent et surtout un grand, grand succès avec ses projets. À très vite.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup Stéphane.
Et longue vie à cette émission.
Merci beaucoup. À très vite.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Alors voilà, nous avions donc Stéphane Théry avec nous en direct de Paris. Donc c'était très très agréable de l'avoir en ligne avec nous, en duplex. Et là, on va reprendre le programme d'aujourd'hui. Donc je vais reprendre ma programmation qui est en fait une programmation francophone. Vous entendez encore en fond une musique qui est en fait la musique du studio, voilà, et voilà, on arrête tout de suite et on va commencer bientôt avec la musique de Studio F. Donc c'est parti avec la syntonie.
Mm.
Marbella Radio 107.6 FM. El protagonista eres tú.
Si tienes internet,
tienes Radio Televisión Marbella.
Visita nuestra nueva página web y descubre todo lo que podemos darte.
Ahora, en www.rtvmarbella.tv,
más información sobre nuestros programas y nuestra programación de radio y televisión.
Sigue en directo tus programas favoritos y, si lo prefieres,
tienes todos nuestros contenidos donde quieras y cuando quieras,
tanto de televisión como de radio, listos para reproducir y también para descargar en tu dispositivo.
Además, abrimos un canal de participación para que puedas hacernos llegar tus propuestas.
Esto es Radio Televisión Marbella,
donde tú eres el protagonista.
Alors voilà, nous sommes à l'antenne. Donc nous avions Stéphane Théry avec nous, qui était un plaisir justement de l'avoir avec nous. Et maintenant, nous repartons avec un petit peu de musique. Je vous propose, ben justement, nous parlions des mots. Je vous propose l'abécédaire avec Elie Semoun.
Apprenez-moi votre alphabet.
Et oui, l'importance des mots, on l'avait en ligne, Stéphane Théry, en direct de Paris. Donc, nous rappelons que c'est important de lire, de s'évader, de prendre un bouquin. Ça nous permet peut-être de créer un monde meilleur avec justement nos idées, nos convictions, finalement tout ce qui fait de nous un humain. Et justement, c'est un enchaînement idéal parce que j'aimerais écouter avec vous Human avec Lara Fabian. Vous êtes en compagnie de Suzanne Ikebana, studio F107.6 FM, avec vous jusqu'à 17h.
attentiel. Plier tous tes bagages, partir avec les tiens, entreprendre un voyage qui te mènera plus loin. Ne te retourne pas, mon visage sera toi. Et poussé par tous les vents, même si c'est
FM. Voilà, on quitte gentiment Lara Fabian, que nous aimons beaucoup, que nous saluons au passage, qui doit certainement ou peut-être nous écouter depuis le Canada. Et maintenant, je vous propose d'oser. Oser. Oser quoi ? Oser Joséphine ? Oui, je crois. À tout de suite. Restez connectés.
À l'arrière des berlines, on devine. Les monarques et leurs figurines. Je ne suis qu'une paire de demi-dieux. Livrés à eux, ils font des petits, ils font des envieux. À l'arrière des dauphines, je suis le roi de ce lien. À qui sourit la vie. Marcher sur l'eau, éviter les péages, jamais souffrir, juste faire hennir les chevaux du plaisir. Osez, osez, Joséphine. Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Usez le sourire, usez
Et oui, il faut oser, oser la créativité, oser dire ce que l'on pense, oser écrire. C'était ce que nous proposait Stéphane Théry, qui était en notre compagnie en début d'émission, je le rappelle, qui est le directeur en fait de Théroma, ce nouveau magazine culturel parisien. Et en fait, Stéphane Théry est bien plus que ça. Il est auteur, il est scénariste, il est dialoguiste. Voilà, c'est un amoureux du cinéma. Et bien sûr de l'écriture. Et là, je vous propose de vous emmener avec Joe le taxi. Et oui, un souvenir. Studio F. Le taxi qui nous emmène très loin, il nous emmène à Paris, on reste à Paris puisque nous étions en début d'émission et un petit clin d'œil à Saint-Germain.
Tous les samedi, après minuit, on se retrouve près de l'île Saint-Louis, transi de joie et de folie, pour y parler philosophie. Et c'est là que ma jeunesse explose, que les instruments se mettent à hurler, dans la chaleur et la fumée, jaillit le moment où l'on ose. Et si t'as pas d'imagination, mieux vaut que tu restes à la maison. Ici c'est un endroit sacré, l'homomètre c'est d'improviser. Allez viens bien à Saint-Germain, dans vos labadèmes. Allez viens bien à Saint-Germain. Ouais, frivole ardeur, rire sans fin, c'est l'ivresse que nous avons faim. Parler, chanter, puis s'aimer, on l'avait un peu oublié. On est fou car on a 20 ans, et on se fout éperdument de ce qui adviendra dans 10 ans. Vive la vie, oh, vive l'instant. Les jupes sont déboutonnées, et les filles ne pensent qu'à être aimées. Les garçons ont les cheveux longs, et déboutonnent leurs pantalons. Allez bien, bien, bien à Saint-Germain, dans bon, dans bon, dans bon. Allez bien.
Le temps passe très vite, je vois qu'il est déjà 16h49 et je ne voulais pas manquer de faire une dédicace à un ami qui fête son anniversaire aujourd'hui, Alex, qui est un poète que nous aurons l'occasion d'avoir sur le plateau de Studio F, et c'est pour lui. J'espère qu'il appréciera. Je vous laisse en compagnie d'Alexandrie. Alexandra, il comprendra. Ça swing, ça bouge dans le studio.
Voile sur les filles, débarque sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. Alexandra, Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un paracuda. Je boirai tout le Nil si tu ne me reviens pas. Je boirai tout le Nil si tu ne me reviens pas. Alexandrie, Alexandra, Alexandrie, danse dans tes draps. Je te mangerai cru si tu ne me reviens pas.
Studio F 107.6 FM avec vous, Suzanne Ikebana, jusqu'à 17h. Gentiment Alexandrie, et on se retrouve avec La Vie en Rose, puisque La Vie en Rose, vous voyez La Vie en Rose, moi oui, et ce sont de nombreuses roses qui vont être distribuées la semaine prochaine à l'occasion de la Saint-Valentin, et là on écoute Grace Jones. Restez Restez bien connectés, nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Que La Vie en Rose est avant tout un énorme succès de Piaf. Gentiment au terme de cette émission, mais nous avons encore quelques instants ensemble. J'aurai le plaisir d'aborder un autre sujet la semaine prochaine et fin février, nous aurons aussi un nouvel invité. Je vous en dirai plus bientôt. Et nous restons toujours en musique avec Grace Jones et nous allons passer à finalement un chanteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Christophe Maé. On reste toujours dans le registre de l'amour. Avec on s'attache, qu'est-ce que vous en pensez ?
J'ai pas de style, pourtant pas hostile. Mais c'est pas pour moi le costard uniforme. J'ai pas l'intégrale du genre idéal. J'aurai toujours l'impression qu'on m'espionne. Pourtant pas contre l'amour. Je sais même plus t'en pour. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas qu'on s'attache et qu'on s'emprisonne. Mais rien n'empêche que l'on s'abandonne. Non, d'un chef de file j'en ai pas le profil. Mais sur l'oreiller j'aime pas qu'on me questionne. Je c'est pas James Bond, entouré de belles blondes. J'ai envie même pas des hommes qui papillonnent. J'attends pas contre l'amour, j'attends plutôt mon tour.
Alors la semaine prochaine, j'aurai le plaisir d'aborder une autre thématique. Je n'aurai pas d'invité, mais je vous parlerai un petit peu d'amour. Forcément, ça sera la Saint-Valentin dans une semaine à peu près. Je vous parlerai de piano, spécial piano et les grands compositeurs qui ont bercé aussi finalement mon enfance et qui sont aussi mes sources d'inspiration. Et je vous parlerai aussi de l'actualité cinéma et l'actualité agenda culturel de Malaga.
Ça nous tient, ça nous fait mal, rien de plus normal. Et tu t'enfiles dans la file et faut pas que tu dépasses. À chaque fois que tu risques, mais t'es qui? T'es pas normal. On s'attache on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas non qu'on s'attache et qu'on s'emprisonne, mais rien n'empêche que l'on s'abandonne. Non, qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas non qu'on s'attache.
Et voilà, nous arrivons gentiment au terme de cette émission. Nous avons passé un moment très agréable finalement avec Stéphane Théry qui nous a fait l'amitié de nous accorder cette interview. Et nous allons gentiment rendre l'antenne. Vous reconnaissez le générique de fin qui est du piano, évidemment. Et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Soyez heureux. Profitez bien de la vie et profitez du soleil et finalement de la neige aussi. À tous nos amis qui nous écoutent d'ici et d'ailleurs. À très vite.